RFI, 6h à Paris et Belgrade, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Diane Berger.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et tous. En Serbie, la jeunesse toujours mobilisée, elle est même désormais rejointe par les agriculteurs et les organisations de la société civile. Le mouvement de protestation contre Aleksandar Vučić ne faiblit pas malgré les dernières annonces du gouvernement. Une semaine après le cyclone à Mayotte, toujours dévasté, des questions se posent sur la rentrée scolaire des jeunes Mahorais. Les écoles encore debout sont réquisitionnées pour accueillir les sans-abri. Une députée propose d'envoyer certains des enfants vers leur famille en métropole. Au Nigeria, le bureau des statistiques sous pression après la publication d'un rapport controversé sur l'insécurité. Et puis le poids politique d'Elon Musk interroge aux États-Unis. Le milliardaire jamais élu a failli provoquer le shutdown, la paralysie budgétaire de l'administration américaine.
Le mouvement de colère s'étend en Serbie.
Les protestations durent depuis plus d'un mois dans le pays d'Europe de l'Est, portées au départ par les étudiants après l'effondrement de l'auvent d'une gare à Novi Sad qui a tué 15 personnes. Ils dénoncent la corruption dans le pays, la mauvaise gestion des affaires par le président Aleksandar Vučić. Les jeunes qui sont rejoints désormais par de plus en plus de forces. Un nouveau rassemblement est prévu cet après-midi à Belgrade. Laurent Rouy.
Pour la première fois samedi, les agriculteurs ont rejoint le mouvement étudiant contre la corruption lors de la manifestation de Novi Sad. Et ce d'une façon originale, puisqu'ils ont cuisiné 1200 portions d'un plat typique de haricots pour le distribuer aux étudiants et aux lycéens qui manifestaient dans une ambiance bon enfant. Le rejet de la corruption et de l'impunité, deux des marques du régime populiste du président Aleksandar Vučić en place depuis 2014, mobilisent de plus en plus dans la société serbe. Les syndicats d'enseignants se sont ainsi solidarisés, de même que les travailleurs d'une importante mine de charbon, ainsi que les comédiens du Théâtre national. En face, le régime, qui ne parvient pas à désamorcer la crise, a tenté de stopper le mouvement lycéen en avançant la date des vacances scolaires. Il a aussi promis aux étudiants des prêts immobiliers subventionnés, le tout sans résultat. De nombreuses organisations appellent à une forte participation à la manifestation de ce dimanche. Laurent Rouy, Belgrade. RFI.
Et le président Vučić a lui martelé hier qu'il ne compte pas reculer face aux manifestations. En Allemagne, les cloches de toutes les églises de Magdebourg ont sonné hier soir en hommage aux victimes de l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de cette ville allemande. Le président du pays était sur place avec 2000 personnes rassemblées devant la cathédrale pour se recueillir malgré une pluie battante. Le bilan est de 5 morts et 200 blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect d'origine saoudienne partageait sur les réseaux sociaux des discours complotistes proches de l'extrême droite et islamophobes. Selon le procureur local, il aurait pu avoir agi car il en voulait à la politique d'asile de l'Allemagne.
L'aide arrive au compte-gouttes à Mayotte une semaine après le passage du cyclone Chido.
L'eau n'est rétablie que partiellement à Mamoudzou, la plus grande ville de ce territoire français de l'océan Indien. Et la rentrée des écoliers s'annonce également perturbée en janvier. 250 établissements scolaires sont dévastés. Les autres servent d'abri d'urgence aux habitants qui n'ont plus de toit. Pour permettre malgré tout aux élèves d'avoir une scolarité, la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, appelle les Mahorais de métropole à accueillir les enfants de leur famille. Une proposition qui laisse Zamzam Zouber, Mahorais installé à Paris depuis 3 ans, mitigée. On l'écoute.
Cela aussi va demander toute une organisation parce que accueillir des enfants, des gens en métropole avec la vie en métropole, sachant que beaucoup de familles ici n'ont pas vraiment les moyens déjà avec leurs propres gosses. J'imagine même pas accueillir des enfants comme ça et assumer tous ces besoins de ces enfants-là. Donc oui, c'est une très très bonne idée, mais à condition que l'État justement accompagne ces personnes qui recevront ces enfants-là. Parce que sinon, ça aboutira à rien du tout. Si c'est pour délaisser des enfants qui sont déjà traumatisés et qui viennent ici avoir une vie aussi qui sera pas facile pour eux, pour moi, ça sert à strictement à rien.
Un témoignage recueilli par Louis. En politique française maintenant, le camp présidentiel l'assure, la composition du gouvernement Bayrou avance malgré une semaine de négociations plutôt infructueuses. Selon le président des députés MoDem, Marc Fesneau, la structuration des grands pôles ministériels est fixée. À droite, le patron des élus, les Républicains, Laurent Wauquiez, annonce lui qu'il ne rentrera pas personnellement au gouvernement, mais son parti devrait participer à condition qu'il obtienne des précisions sur la feuille de route du Premier ministre. En revanche, aucun parti de gauche n'est prêt à soutenir devenir le nouveau chef du gouvernement. Seul l'ancien ministre socialiste François Rebsamen se dit prêt à rejoindre l'équipe.
On en parlait il y a quelques jours sur RFI. Le bureau des statistiques du Nigeria a publié une enquête alarmante sur la criminalité et l'insécurité du pays.
Selon ce rapport, plus de 2 millions de personnes auraient été kidnappées en l'espace d'un an. Mais quelques jours après cette publication, le site internet du bureau des statistiques n'est plus accessible. Son chef a été convoqué par la sécurité d'État. Lisa Fabian.
Les chiffres contenus dans le rapport du Bureau des statistiques sur la perception du crime et l'expérience de l'insécurité au Nigeria sont impressionnants, mais leur crédibilité semble questionnée même au plus haut sommet de l'État. Le statisticien général qui chapeaute les travaux de cet organisme chargé de produire des données officielles a été convoqué jeudi soir par la DSS, les puissants services du renseignement intérieur nigérian. Selon les informations de la presse locale, Semiu Adeyemi Adeniran a été interrogé sur la méthodologie de cette enquête et sur les chiffres mentionnés dans ces pages. Cette étude officielle suggère que 2 millions de Nigérians ont été kidnappés entre mai 2023 et avril 2024 et que le total des rançons versées pour les libérer dépassait les 1 milliard d'euros sur cette période. Mais ces informations ne sont plus accessibles au grand public puisque le site du Bureau des statistiques est maintenant totalement hors ligne. Officiellement, il s'agirait d'un piratage, mais Atiku Abubakar, le leader du parti d'opposition PDP, a qualifié cet incident technique de suspect. Dans un communiqué, il a mis en garde contre toute tentative de manipulation des statistiques officielles.
Israël furieux contre des déclarations du pape François, le chef des catholiques, qui a condamné hier, je reprends ces mots, la cruauté d'une frappe aérienne israélienne à Gaza, une frappe qui a tué 7 enfants, selon la défense civile gazaoui. Le ministre israélien des Affaires étrangères répond que le pape ne devrait, je cite, critiquer que les terroristes et pas la démocratie qui se défend face à eux. Au Proche-Orient également, l'armée américaine a frappé des installations militaires houthies à Sanaa, la capitale du Yémen, au lendemain de ce tir de missile des rebelles yéménites qui a touché un jardin d'enfants à Tel Aviv, faisant 16 blessés légers. Et puis cet incident au-dessus de la mer Rouge, la marine des États-Unis a abattu par erreur un avion de chasse de son propre pays. Les deux pilotes à bord de l'engin ont survécu.
Pas de shutdown aux États-Unis. Le président sortant Joe Biden a promulgué hier le texte qui va éviter la paralysie budgétaire du pays.
Un accord obtenu in extremis. Les élus ont passé une semaine difficile dans les couloirs du Congrès après l'intervention de l'influent milliardaire Elon Musk, décidé à torpiller l'accord bipartisan sur lequel républicains et démocrates avaient obtenu un consensus. À un mois de l'investiture de Donald Trump, le poids de son allié inquiète, y compris au sein du camp républicain. Loumna Anaki.
Le président Musk, le second in-chief, l'éminence grise de Trump ou encore le double de Trump, c'est ainsi que certains à Washington et sur les plateaux télé surnomment désormais Elon Musk. Le patron de Tesla, on le sait, a été choisi par Donald Trump pour diriger le nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Mais en réalité, il occupe également une fonction de conseiller auprès du président élu. Elon Musk est quasiment présent à toutes les réunions, tous les dîners et mercredi, il a suffi que l'homme d'affaires publie une dizaine de tweets critiquant le projet de budget négocié par les républicains et les démocrates pour que Donald Trump ordonne aux élus de son parti de rejeter le texte parlant d'un projet ridicule. Un avant-goût de ce que pourrait être la présidence Trump avec un Elon Musk comme conseiller. Le patron de Tesla est l'homme le plus riche du monde et compte plus de 208 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Une influence vivement critiquée par les élus démocrates cette semaine et même certains républicains qui ont osé défier les directives de Donald Trump ont déclaré, je cite, qu'il travaillait pour le peuple américain et non pour Elon Musk. Loubna Anaki, New York, RFI.
Lui assume son affection pour Elon Musk, le président libertarien de l'Argentine, Javier Milei. Nouveau projet de ce chef d'État, attiré sur le sol argentin des data centers, ces centres de stockage de données dont ont besoin les géants de la tech, notamment pour l'intelligence artificielle générative. Or, ils consomment énormément d'énergie. Pour les attirer, Javier Milei mise donc sur le nucléaire. Il représente pour l'instant 9% de l'électricité de son pays. Et Justine Fontaine, le chef d'État argentin, a donc lancé il y a deux jours un projet de petit réacteur nucléaire qui serait financé par des capitaux américains.
L'Argentine avait été le premier pays d'Amérique latine à opérer une centrale nucléaire sur son sol. Elle veut désormais être la première à construire et faire fonctionner un petit réacteur modulaire dès 2030, comme l'a assuré depuis le palais présidentiel Demian Reidel, conseiller énergie du président argentin.
Il est hautement probable que l'Argentine soit le premier pays à produire et commercialiser ce modèle innovant de réacteur nucléaire.
Dans les faits, la Russie exploite déjà deux réacteurs modulaires, mais même si de nombreux autres sont en cours de développement à travers le monde, cette technologie n'est pas encore éprouvée à l'échelle industrielle. Le président argentin Javier Milei veut en tout cas utiliser un projet développé en Argentine et le faire financer par des capitaux privés américains. Objectif à terme, attirer les géants de la tech et leurs data centers.
Nos terres inhospitalières en Patagonie, où les températures sont basses, sont attractives pour y installer des serveurs destinés à l'intelligence artificielle. Et le potentiel de développement de l'intelligence artificielle est si important que l'énergie conventionnelle ne suffira pas à répondre à une telle demande.
Un discours accueilli avec amertume par les institutions publiques spécialisées dans le nucléaire en Argentine, car depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei il y a un an, elles ont toutes vu leur budget réduit à peau de chagrin, comme de très nombreux services publics.
Et avec ce nouveau projet, l'Argentine devrait aussi tourner le dos à un autre projet de centrale nucléaire, financé cette fois par la Chine, qui avait été lancé par le prédécesseur de Javier Milei. On reste sur le continent sud-américain avec ce grave accident de car dans le sud-est du Brésil. Le bilan est d'au moins 38 morts, une terrible tragédie, selon les mots du président Lula. C'est le pire accident de la route dans le pays depuis 2007. Selon les premiers résultats de l'enquête, un gros bloc de granit serait tombé de la benne d'un camion qui circulait en sens inverse. Il a heurté l'autobus qui a pris feu immédiatement.
Elle s'appelait Marie-Thérèse Ordonez, mais les Français la connaissaient sous le simple prénom de Maïté.
Une icône de la gastronomie traditionnelle française. Elle est décédée hier à l'âge de 86 ans. Ses recettes et sa gouaille légendaire ont fait d'elle une star de la télévision pendant plus de 20 ans. Edmond Sadaka.
Pieds de porc en salade, tête d'agneau à la persillade, ce sont quelques-unes des recettes qui ont fait la légende de Maïté. Les téléspectateurs l'ont découverte en 1983 grâce à l'émission La cuisine des mousquetaires sur FR3, l'ancêtre de France 3. Elle préparait des plats traditionnels, essentiellement de son sud-ouest natal, mais surtout elle avait ce don rare de transformer une simple recette en spectacle. Parmi les moments cultes, une séquence où, aux côtés de son acolyte Micheline Banzelauton, elle assomme avec un pilon une anguille vivante avant de la cuisiner.
Ne bouge pas ma chérie, on va juste... c'est rien. Oh, viens là ma puce. Viens là ma puce, viens là ma biche. Oh, viens là ma chérie, tu n'auras pas ma peau. Voilà.
Rien ne prédestinait Maïté à devenir une star du petit écran. Elle qui avait débuté à la SNCF avant d'être repérée sur le tard par un réalisateur. À la télévision, sa carrière a duré une vingtaine d'années. En parallèle, elle a multiplié les éditions de livres de cuisine. Elle a ouvert deux restaurants, prêté sa voix à des publicités et même fait du cinéma. Depuis 2010, elle vivait une paisible retraite dans son petit village des Landes.
Et sur les réseaux sociaux, le président français Emmanuel Macron a tenu à saluer une ambassadrice de notre cuisine traditionnelle, icône populaire, source d'inspiration pour tant de familles qui incarnaient si bien l'art d'être français. Il est maintenant 6h13 à Paris, 5h13 en temps universel. La suite de la matinale de RFI avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Diane Berger, à tout à l'heure. Dimanche 22 décembre 2024, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et la situation à Mayotte à la une à nouveau ce matin. L'attente toujours des sinistrés du cyclone Chido qui manque toujours d'eau. Le chef-lieu Mamoudzou est partiellement raccordé seulement depuis hier et de l'eau a été livrée pour la première fois ce samedi au pied du plus grand bidonville de Mayotte. Reportage sur place de notre envoyé spécial à 6h, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi la République démocratique du Congo et de violents combat hier dans le territoire du Lubero entre l'armée et les rebelles du M23. Les forces congolaises affirment avoir repris plusieurs villages alors que les négociations diplomatiques sont toujours sans résultat. On fait le point dans moins de 20 minutes avec Vincent Dublange. RFI Matin le dimanche, c'est aussi notre livre international et cette semaine, alors que l'ONU fête ses 80 ans l'an prochain, comment remodeler les institutions internationales fragilisées et impuissantes face aux conflits actuels. On en parle avec la journaliste Anne Cécile Robert. Et puis les sports, comme chaque matin, et un combat à 190 millions de dollars entre deux titans de la boxe. L'Ukrainien Oleksandr Usyk a de nouveau battu Tyson Fury. Christophe Diremzian nous en parle tout à l'heure. Mais pour commencer ce matin, cap sur le Canada où le sujet de l'immigration est comme ailleurs de plus en plus central. Le pays a entamé au mois d'octobre un tournant radical en annonçant une réduction drastique des quotas d'immigration. Le Canada, qui accueille plus de 400 000 personnes chaque année, trié sur le volet. Et pour la première fois, une majorité de Canadiens considèrent qu'ils sont trop nombreux. Une étude a pourtant révélé le mois dernier qu'une proportion importante de ces immigrés repartent au bout de quelques années. Une réalité particulièrement prononcée chez les francophones, dont un tiers quitte le Canada dans les 5 ans après leur arrivée. Pascal Guéricola a rencontré quelques-uns de ceux qui y songent ou s'y préparent. Reportage.
Installée dans la ville de Québec depuis 4 ans, Aurélie et son conjoint rentrent en France avant la fin de l'année avec leur bébé tout neuf pour se rapprocher de leur famille. Parmi les raisons du retour, la jeune femme rencontrée dans un café évoque aussi l'augmentation du coût de la vie dans sa patrie d'adoption.
Je note le montant de nos achats d'épicerie depuis qu'on est arrivé pour faire nos comptes. Et ça a vraiment beaucoup augmenté depuis qu'on est là. Tout coûte très très cher. Le loyer aussi, tous les loyers, à moins de se retrouver en sous-sol ou en demi-sous-sol. C'est vrai que je pense qu'on a quand même l'idée, quand on vient de la France, de « Ok, on aura un meilleur salaire, donc un meilleur niveau de vie ». En l'occurrence, comme le coût de la vie autour est plus élevé, on n'a pas forcément un meilleur niveau de vie. C'est un système très capitaliste ici et on paye tout le temps pour tout. J'ai toujours l'impression de mettre la main à la carte.
Ils sont très gentils, on s'entend très bien, mais ça reste de la surface. Ça ne va pas aller plus loin.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs discutent également de la tendance du Québec et du Canada à se vanter un peu trop du caractère accueillant du pays. Autour d'un thé chez elle, Alexandra parle des difficiles liens d'amitié avec les Québécois. La Française songe à repartir avec sa famille, faute de se sentir intégrée au bout de 8 ans.
On ne nous fait pas sentir qu'on est ici chez nous comme Québécois. On sera toujours des Français. On se sent seul parfois, on a eu du mal à s'insérer, à intégrer cette culture québécoise. Et faire toujours des efforts, c'est vrai que ça, à la longue, ça fatigue.
Les efforts dont parle la mère de famille concernent aussi se déployer pour se conformer aux exigences des employeurs. Dans son bureau au 5e étage de l'Université Laval, la géographe Adèle Garnier énumère les obstacles professionnels qu'affrontent les immigrants, même après plusieurs années au Canada.
Une des barrières, justement, c'est la reconnaissance des compétences. Mais mettons, vous êtes psychologue, vous êtes avocat, des métiers comme ça, vous êtes ingénieur. Ça demande beaucoup d'efforts au Canada et au Québec, particulièrement, de rester. Vous êtes médecin, les démarches à faire pour être médecin ici, quand vous êtes surtout pas français, c'est très difficile. S'ils n'ont pas le travail qu'ils veulent ou le salaire qu'ils veulent, ils vont peut-être aller chercher mieux ailleurs.
Les statistiques montrent que les personnes davantage qualifiées ont tendance à quitter le Canada. Un signal d'alarme, selon la chercheuse. Elle invite les autorités à déployer plus de moyens pour les retenir et leur faire une place ici. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Notre reportage international au Canada à retrouver sur RFI.fr. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et aujourd'hui on continue d'évaluer les conséquences politiques de la censure votée contre Michel Barnier il y a 2 semaines. On se penche sur le Rassemblement National. Avec vous, Raphaël Delvolvé, bonjour.
Bonjour.
Marine Le Pen n'affiche aucun regret.
Non, elle se dit elle-même capable de recommencer avec François Bayrou, avec lequel elle repart sur les mêmes bases qu'à la rentrée. Tu me respectes, je ne te censure pas a priori. Un vœu en partie exaucé, Marine Le Pen a été reçue en premier lundi à Matignon pour un cycle de consultations organisé par le tout nouveau Premier ministre. La voilà consacrée au moins symboliquement comme la principale force d'opposition, puisque son parti n'a en revanche pas été consulté pour la seconde réunion organisée par Matignon. C'était jeudi et c'était cette fois pour constituer le prochain gouvernement. Ce qui lui sied bien, hein, cette place de opposante. Elle l'avait dit elle-même lorsque quelques jours après la censure, le président avait convoqué tous les partis sauf la France Insoumise et le Rassemblement National. Nous sommes, je cite Marine Le Pen, la seule force d'opposition. Ça fait penser d'ailleurs à une certaine Giorgia Meloni en Italie, elle aussi d'extrême droite. Elle avait sciemment fait le choix il y a 2 ans de ne pas participer à un gouvernement d'union nationale dirigé par Mario Draghi. On connaît la suite, elle a remporté les élections
et s'est emparée du pouvoir.
Est-ce donc pour mieux s'affirmer dans le paysage politique que Marine Le Pen a appuyé sur le bouton le 4 décembre ?
Nul n'est dans la tête de Marine Le Pen, mais on perçoit quand même depuis la censure une forme de jubilation dans les mots et sur le visage de la leader d'extrême droite. Cette marginalisation par les autres partis semble faire partie du plan. C'est même un retour aux sources pour le RN, anciennement FN, qui doit sa progression constante dans les urnes à son inexpérience du pouvoir. Vous savez, le fameux « on n'a pas essayé ». Difficile non plus de ne pas y voir un moyen politique d'influencer les juges qui auront le 31 mars prochain la lourde tâche de condamner ou non Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire.
Et précisément, en raison de cette menace, Raphaël, n'aurait-elle pas non plus intérêt à une élection présidentielle anticipée ?
Eh bien ça aussi, c'est une évolution notable chez Marine Le Pen depuis la censure. Bien qu'elle n'appelle pas ouvertement Emmanuel Macron à la démission, elle ne cache plus se préparer à une telle éventualité. Elle l'a dit cette semaine dans le journal Le Parisien, « Je me prépare par précaution ». Compte tenu de la fragilité du président. Les membres du RN ne cessent d'ailleurs de qualifier, je mets les guillemets, le chef de l'État comme l'élément perturbateur de la crise politique actuelle. Alors nous sommes encore loin d'une démission d'Emmanuel Macron. L'intéressé rejette cette hypothèse, mais pour le moment, dans les sondages, Marine Le Pen ne souffre nullement de la censure. Elle obtiendrait, accrochez-vous, entre 36 et 38% des voix au premier tour si une présidentielle avait lieu cette semaine.
Raphaël Delvolvé, merci beaucoup. Pouvait-on choisir pire moment pour fêter cet anniversaire ? L'année prochaine, l'ONU célébrera ses 80 ans, l'anniversaire de la charte de San Francisco signée le 25 juin 1945. 80 ans au moment même où l'institution paraît à bout de souffle. Déstabilisée par l'état du monde, les guerres en Ukraine, au Proche-Orient, l'ONU est accusée aujourd'hui d'être incapable de faire respecter les principes et les valeurs qui fondent l'ordre mondial depuis 1945. Notre livre international se penche justement sur ce dangereux défi pour les Nations Unies, le défi de la paix, remodeler les organisations internationales et publié aux éditions Armand Collin et signé Anne-Cécile Robert, la directrice adjointe du Monde diplomatique, qui nous en parle avec Sylvie Noël.
Anne-Cécile Robert, bonjour.
Bonjour.
Dans Le défi de la paix, vous écrivez que le martyr des populations de Gaza engage le pronostic vital de l'organisation internationale. Pourtant, dans le même temps, vous développez l'idée qu'il faut remodeler ces mêmes organisations internationales face au chaos qui déstabilise actuellement l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. Vous pensez réellement que les organisations internationales telles que l'ONU, si décriées ces derniers temps pour son impuissance, ont encore un rôle à jouer ?
Les organisations internationales sont sous le feu de la critique parce que sur un certain nombre de crises très importantes, comme ce qui se passe à Gaza, ou on pourrait même évoquer à nouveau l'Ukraine ou la Syrie, elles se révèlent impuissantes. Mais il ne faut pas se tromper de coupable, tant sur Gaza que sur l'Ukraine. L'ONU a travaillé, fait des choses. Par exemple, le peu d'aide humanitaire qui rentre à Gaza, c'est l'ONU, et y compris en Ukraine, qui vaccine les enfants, les petits Palestiniens, c'est l'Organisation mondiale de la santé.
Alors, mais en creux, la critique qu'on fera à l'ONU, c'est que si elle développe ses activités humanitaires, c'est aussi parce qu'elle n'a pas réussi à ramener la paix.
Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai, à ceci près que dans des tas d'autres crises, en Afrique par exemple, il y a quelques jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a par exemple voté une résolution pour des sanctions contre les chebabs somaliens. Elle travaille. On note, parce que les échecs sont spectaculaires, mais dans beaucoup de situations, l'ONU fonctionne, ses casques bleus sont sur le terrain, assurent des tas de missions. Donc il faut se rappeler que derrière certains échecs spectaculaires, il y a un vrai travail de paix et que par ailleurs, les échecs sont moins dus à l'ONU qu'à certains États qui se comportent très mal.
Alors effectivement, vous dites l'exacerbation décomplexée des logiques de puissance que l'on observe actuellement est inédite depuis 1945. Vous citez même Hassan Salamé qui parle d'une dérégulation du recours à la force. Qu'entend-il ?
C'est voilà. Le problème majeur. L'une des fonctions de l'ONU est de fixer un cadre pour limiter la guerre, voire l'empêcher. Et peu ou prou, même s'il y a toujours eu des guerres sur la planète, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, depuis 1945, de conflits majeurs, notamment entre les grandes puissances. Et malheureusement, depuis quelques années, on s'aperçoit que les grandes puissances qui devraient montrer l'exemple et stabiliser le système mondial sont en fait elles-mêmes factrices de troubles parce qu'elles ont relégitimé un usage de la guerre d'une manière brutale si on pense à la Russie en Ukraine, où elles le cautionnent, ce recours à la force, à la guerre, comme les États-Unis en Irak en 2003, ou en empêchant toute sanction contre le régime israélien qui commet aujourd'hui des crimes de guerre à Gaza et aussi au Liban.
Alors justement, la grande question, quelles peuvent être les perspectives pour faire évoluer notamment l'ONU ? Vous évoquez trois scénarii, l'effondrement, le pourrissement ou le renouveau, et dans ce cas, deux maîtres mots, représentativité et efficacité.
C'est vrai qu'il y a un risque aujourd'hui d'effondrement du système multilatéral, et l'un des facteurs d'incertitude, c'est l'élection de Donald Trump, hein, qui n'est pas, c'est un secret pour personne, un ami de l'ONU à laquelle il menace de couper les vivres. Mais vous avez raison de souligner que l'une des clés, ce sera sa représentativité, parce qu'effectivement le système onusien est très marqué par la Seconde Guerre mondiale, avec un rôle de ceux qui étaient les grands vainqueurs face à l'Allemagne nazie et au Japon. Mais aujourd'hui, cela ne correspond plus aux équilibres de la planète et il faut ouvrir le système onusien, notamment le Conseil de sécurité.
Et ce qui nécessitera une révision de la charte.
Alors là, il faudrait une révision de la charte, c'est vrai. Mais on peut aussi avoir de l'espoir sur ce terrain, puisque pendant très longtemps, tout était bloqué. Personne, et en particulier pas les cinq membres permanents, ne voulaient ouvrir le Conseil de sécurité. Et là, ça y est, y compris les Américains admettent qu'il va falloir ouvrir des postes de membres permanents. Et ils ont clairement dit que deux pays africains pourraient bénéficier de sièges de membres permanents.
Merci Anne-Cécile Robert.
Merci.
Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde diplomatique, et son livre « Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales ». Bientôt 5h30 en temps universel. RFI Matin, c'est une fenêtre ouverte sur le monde.
Jolie formule, Julien.
Bonjour Steven Jambot.
Bonjour Julien.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui à 11h10 temps universel dans l'atelier des médias ?
En cette fin d'année 2024, je vous propose de revenir sur des productions de séries audio marquantes de l'année écoulée. Je serai en compagnie de Mathilde Mélin, qui écoute des dizaines d'heures de podcasts chaque mois pour en faire des critiques, positives ou négatives évidemment, sur Slate.fr.
Et vous allez présenter des podcasts qui parlent du Sénégal, de l'Ukraine, des États-Unis ou encore de l'Afghanistan.
Effectivement, ils sont produits par des médias de service public francophone ou par des studios de podcast, mais je ne vous en dis pas plus. Au lieu de cela, je voudrais vous inviter, vous qui nous écoutez, à aller sur l'application RFI Pure Radio pour trouver nos podcasts originaux et voir la richesse de nos productions, notamment nos enquêtes africaines.
Et il y a un podcast RFI que vous voulez nous suggérer aujourd'hui, les Contes de Rukyata.
S'il y en a qui, comme moi, sont des parents de jeunes enfants, disons entre 4 et 12 ans, ça risque fort de vous intéresser. Mes enfants adorent Rukyata Ouédraogo et ses contes. Rukyata, c'est une autrice et comédienne burkinabé. On l'écoute.
La mémoire est une chose qui peut se perdre facilement. Mais une fois perdue, il est très difficile de la retrouver. On n'y arrive jamais complètement. Il faut fouiller dans les épaisses couches du passé qui se sont accumulées avec le temps pour espérer en trouver des traces, des indices, des fragments. Si on a de la chance, on peut espérer, en les assemblant dans un ordre vraisemblable, obtenir une image plus ou moins parcellaire des histoires anciennes. Cependant, ce n'est jamais garanti. Eux, de vieux savants barbus, se chamaillent chaque jour dans des querelles d'experts sans fin pour savoir si notre image du passé est juste ou pas. En Afrique, nous avons un lien direct avec le passé, car nous entretenons notre mémoire depuis la nuit des temps. Ce lien, ce sont justement les contes. Et le conte d'aujourd'hui que je vais vous raconter va nous ramener très loin dans le passé, à l'origine de l'humanité. Vous avez déjà entendu dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout le monde sait ça. Mais qui sait pourquoi ?
Unis comme les cinq doigts de la main, un extrait d'un des 6 contes écrits et racontés par Rukyata Ouédraogo. Ça s'écoute sur le site et application de RFI et sur toutes les plateformes d'écoute. Foncez.
Une recommandation de Steven Jambot et de ses enfants. Merci Steven.
Merci Julien, bonne journée.
À la semaine prochaine. Et sur RFI, le journal dans moins d'une minute. À tout de suite.
RFI à Bilbao, 97.5 FM. Bissau, 94 FM.
géopolitique.
La pandémie de 2020 a généré une situation inédite, celle de l'expérience collective d'une grande contraction de liberté. Les États ont massivement eu recours à un dispositif juridique appelé état d'urgence, jusqu'alors cantonné à la lutte antiterroriste. Peut-on parler de convergence entre régimes autoritaires et démocratiques ? Réponse avec la politiste et juriste Eugénie Mériot.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.